Sur Aligre FM avec Jean-Marc Gélin.
Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. On est heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, figurez-vous qu'on a prévu de faire une émission dédiée à un label, le label Yolk. Mais vous le savez certainement, amoureuses et amoureux du jazz, cette semaine, on a appris une triste nouvelle avec la disparition de l'un de nos plus grands jazzmen, et pas que jazzmen, Michel Portal, qui nous a quittés cette semaine. Alors on voulait démarrer cette émission en lui rendant un hommage et en passant un titre Bayador de l'album éponyme. Allez, on écoute Michel Portal, cette émission est pour toi. Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à Aligre FM 93.1 avec Jean-Marc Gélin, votre serviteur, accompagné aujourd'hui de Cécile Faou-Cresson. Bonjour Cécile.
Bonjour Jean-Marc.
Alors, on vient d'entendre Bayador parce qu'on a appris dimanche la disparition d'un des plus grands jazzmen français, Michel Portal, qui nous a quittés à l'âge de 90 ans. Alors, Michel Portal, c'est une sorte de caméléon qui a, durant toute sa carrière, navigué entre des styles et des formes et des formations différentes avec sa clarinette, qu'elle soit basse ou pas d'ailleurs, qui y allait avec le même talent, la même générosité de Mozart à Coltrane, du classique au free jazz, voire même au rap d'ailleurs, quand il a enregistré un album à Minneapolis, dont on parle beaucoup en ce moment, en 2001, avec des jeunes musiciens. Parce que Michel Portal, c'était aussi quelqu'un qui aimait aller à la rencontre des musiciens confirmés ou des jeunes musiciens, on pense à Vincent Perani et d'autres, Émile Parisien et j'en passe, parce qu'on ne pourrait pas citer tous les musiciens qui ont eu la chance d'être accompagnés avec lui, de jouer avec lui. Alors, pour ouvrir cette émission, on a ouvert avec Bayador, le danseur, ça lui va très bien ça, le danseur à Michel Portal. Le titre éponyme de l'album qu'il avait enregistré en New York en 2010 avec Jack DeJohnette, qui nous a quittés lui aussi il n'y a pas longtemps, à la batterie, Boyan Z au piano, Ambrose Akinmusire à la trompette, Lionel Louéke à la guitare et Scott Collet à la contrebasse.
Tout simplement.
Tout simplement. Ben oui, il a joué avec tout le monde et tout le monde adorait jouer avec lui. Alors aujourd'hui, on a prévu de consacrer cette émission au label Yolk. C'est un label qui nous tient particulièrement à cœur de recevoir. Une fois n'est pas coutume, on ne fait pas la promotion d'un album, mais là plutôt d'un album. Et on a le plaisir de recevoir l'un de ses fondateurs, le contrebassiste Sébastien Boisseau, qui n'habite pas à Paris, donc nous l'avons par téléphone. Sébastien Boisseau, est-ce que vous êtes avec nous ?
Bonjour, bien avec vous.
Bonjour Sébastien, on est ravis de vous recevoir avec Cécile.
Bonjour Sébastien.
On vient de passer un morceau de Michel Portal, juste deux mots. Vous avez déjà joué, vous, avec Michel Portal ?
Oui, j'ai joué avec Michel quelques concerts il y a une vingtaine d'années. En fait, c'était à l'époque où je travaillais beaucoup avec Daniel Humer au sein du groupe Baby Boom. Et à cette époque-là, Daniel m'embarquait souvent dans ses valises. Et il m'a ouvert les portes et puis il m'a permis de rencontrer des personnalités incroyables, dont Michel, qu'en fait que j'ai rencontré une première fois lors d'un concert en quartet avec Luís Cavis et Daniel au Portugal. Et c'était la première fois que je rencontrais Louis également. Et c'est un souvenir que je garde, qui sera impérissable et que je garderai toujours. Tout à l'heure, vous avez évoqué son côté caméléon.
Oui.
Et c'est marrant. M'est revenue une anecdote de ce jour, de cette première rencontre, qui illustre, c'est une toute petite anecdote, mais qui est liée au fait que ce garçon n'avait absolument aucune frontière, pas de passeport. Et en pensant à ça, je me suis rappelé quand on avait pris l'avion, on était arrivé à l'endroit où il faut au contrôle des passeports et aussi au contrôle des bagages, et il avait dû. On lui avait demandé d'ouvrir sa mallette où il y avait la clarinette. Mmh. Il s'était exécuté la personne à la sécurité lui avait demandé ce que c'était, donc il lui avait expliqué que c'était une clarinette. Et le garçon semblait quand même assez dubitatif et je sentais bien que je connaissais pas Michel, mais que ça l'énervait assez fort. Mmh. Et il a fini énervé très fort en appuyant sur les tampons de sa clarinette comme ça assez violemment en disant droit dans les yeux. Au monsieur qu'il avait choisi de faire de la musique pour ne pas faire la guerre et qu'il ne comprenait pas qu'on ne comprenne pas ça.
Ah ouais, superbe, ouais. Superbe. Ouais. Mais, oui, il pouvait se mettre en colère, mais c'est aussi quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'humour. On va lui consacrer certainement, Cécile, prochainement une émission et on va lui consacrer quelques heures. D'ailleurs.
J'en profite d'ailleurs pour dire que ceux qui veulent éventuellement le célébrer, lui faire un dernier au revoir, il y a une cérémonie à 10h30 le 24 février. Au Père Lachaise.
Tout à fait. Et voilà. Puis il y aura un concert, je crois, qui sera organisé au Triton. Alors Sébastien Boisseau, déjà, on vous a présenté, alors on ne vous présente plus comme musicien, comme contrebassiste, vous avez joué pratiquement avec tout le monde, mais là on vous reçoit comme l'un des fondateurs du label Yolk. On voulait rendre un peu un hommage à ce formidable label qui nous tient à cœur. Moi déjà, j'ai une question, Sébastien, vous dormez la nuit ? Parce que vous êtes musicien, vous vous occupez de ce label que vous tenez à bout de bras, vous êtes dans l'ONG, sauf erreur de ma part. Quand est-ce que vous dormez? Vous ne dormez peut-être pas.
Je dors très 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 bien. Je suis assez jaloux parce que j'ai un sommeil très facile.
Avec le sens du devoir accompli.
Ça m'aide beaucoup, en tout cas, à récupérer. C'est vrai que par moment, par période, les nuits peuvent être courtes. Il y a beaucoup de choses qui s'empilent, mais vous récupérer.
Vous nous bluffez parce que, alors là, on va parler surtout de ce label et du label Yol qui vous nous bluffez parce que vous êtes pas tout seul à avoir créé ce label. Il a été créé en quelle année?
Je
le sais, hein, j'ai révisé quand même, hein, mais c'est quand même pour vous faire parler.
Et puis pour faire un chiffre rond, on date souvent à 2000, mais officieusement, on a commencé vers 98 en fait. C'est-à-dire qu'on a commencé avec des disques qui étaient cartonnés, qu'on pliait et qu'on collait nous-mêmes.
Dans un garage.
Un petit peu, c'était déjà le self en fait. On était dans ce geste-là, aussi pour des raisons économiques, parce que ça nous coûtait moins cher. Et puis, on était très influencés à cette époque-là. Quand je dis « on », je parle évidemment de mes deux coéquipiers, cofondateurs, qui sont Alban Pache et Jean-Louis Pommier. Et on était très inspirés par le label de Tim Burns, Scroogan, qui était aussi un disque en carton. Enfin, voilà, des disques assez légers, assez artisanaux. Et ça nous séduisait beaucoup de pouvoir tenter une aventure de label, mais avec les moyens qu'on avait, donc... Au départ, c'était des objets assez chiches et assez modestes.
C'est un label qui tourne autour de combien? 3-4 albums par an?
Ouais, c'est un petit peu cette moyenne là depuis les 10 dernières années. On est autour de 3-4 albums. Alors, auparavant, on a pu faire plus, mais on préfère, en fait, comme on a beaucoup d'activités aussi à gérer, on peut pas se disperser trop.
Est-ce que ça, si je vous parle du 8 novembre, ça vous évoque quelque chose, le 8 novembre?
Non, pas comme ça.
Ah, je vous ai coincé, pardon, je suis désolé. Le 8 novembre, c'est un titre de... En fait, c'est plus exactement, c'est une date emblématique du voyage de Magellan, qui arrive plutôt à sa fin, à la fin de son périple, et c'est tiré de l'album dédié à Magellan, l'album de Clover, le groupe dont vous faites partie. Je vous propose qu'on écoute le 8 novembre, d'accord?
Parfait.
Allez.
Enfin. Le 8 novembre 1521, l'équipage arrive à Tidore, l'une des 5 îles des Moluques dont Magellan a rêvé toute sa vie. Île bienheureuse. Tout ce que les Espagnols désirent, ils l'obtiennent en abondance. Épices précieuses, vivres et poussière d'or. Et ce que le roi Almanzor de Tidore ne peut leur fournir lui-même, il le fait venir des îles voisines. Après les multiples privations et souffrances endurées, les matelots sont enchantés de tant de bonheur. Un certain nombre, à vrai dire, préféraient ne pas quitter ce paradis. Aussi plusieurs, juste avant le départ, accueillent-ils avec joie la nouvelle subite qu'un seul des navires est capable de reprendre la mer et qu'en attendant que l'autre soit remis en état, 50 d'entre eux devront rester à terre. Mais il est temps d'aller faire savoir à l'empereur que Magellan a tenu sa promesse. Le Victoria, dernier des 5 navires de la flotte, retournera au pays par l'ouest, par l'océan Indien.
Thank you.
Maria emporte avec lui 700 quintaux d'épices, c'est-à-dire assez pour assaisonner le repas le plus abondant de plusieurs centaines de milliers, de plusieurs millions d'hommes. Mais à quoi servent les épices à un équipage affamé? Chaque jour, on jette par-dessus bord de nouveaux cadavres. Sur les 47 Espagnols partis de l'île Timor, il n'en reste plus que 31. Et sur les 19 indigènes, 3 seulement, lorsque le navire, épuisé après 5 mois de navigation incessante, arrive enfin le 9 juillet 1522, en vue des îles du Cap-Vert. C'est précisément ici que Pigafetta, le brave chroniqueur de l'épopée de Magellan, observe le premier un phénomène qui, par sa nouveauté et son importance, excitera l'intérêt du monde entier. Les hommes qui ont débarqué pour acheter des vivres apportent la nouvelle qu'à terre, c'est jeudi, alors que sur le bateau, on leur a assuré que c'était mercredi. Pigafetta s'étonne. Jour par jour, pendant toute la durée du voyage, il a tenu son journal et inscrit sans cesse lundi, mardi, mercredi, etc. Il faut croire qu'en allant toujours vers l'est, les navigateurs ont d'une façon inexplicable gagné un jour.
Et oui, vous êtes bien sûr Jazzland YFM 93.1 pour cette émission consacrée au label IOL, que nous sommes avec, avec Cécile Faucresson, nous sommes avec Sébastien Boisseau, l'un des fondateurs de ce label. Et là, on venait d'écouter un des groupes un peu phares de ce label, hein, j'allais dire un groupe maison du label, Clover, autour de cet album sur Magellan et sur le texte, les textes de Stefan Zweig. Clover, c'est un groupe maison, on peut dire ça?
Oh, oui, c'est un groupe maison hautement symbolique, c'est-à-dire que c'est un groupe qu'on a monté pour les 20 ans du label, en s'apercevant avec... donc c'est un trio qui réunit les 3 fondateurs du label. Et en fait, en montant ce groupe, on s'est aperçu qu'on avait passé 20 ans à jouer ensemble dans les groupes des uns des autres, dans des formules variées allant du quartet au big band, et qu'on n'avait jamais monté de trio tous les 3. Donc voilà, on s'était
Cocasse.
Dit que
c'était
l'occasion. On a sorti un premier album, un deuxième, et puis au moment de réfléchir à un troisième répertoire, on avait envie d'aller plus loin. Et c'est là qu'on est arrivé sur l'histoire de Magellan.
Et pourquoi Magellan alors? Parce que c'était une passion d'un de vous trois ou
En fait, il s'est trouvé qu'au moment où on réfléchissait à ce nouveau répertoire, on avait d'abord... Pour vous connaissiez l'histoire, on avait imaginé... En fait, on a fait une proposition à Norma Winston, la chanteuse, dont on est tous les 3 très très fans, et on l'a contactée pour lui demander...
Vous êtes plus que 3. Hein.
Je connais un Thierry Péla aussi, qui aime beaucoup Norma Winston.
Oui, bah oui, évidemment, toute la famille et la galaxie Kenny Wheeler.
Kenny Wheeler, oui.
On touche et voilà, on avait contacté... Donc Norma, qui nous avait gentiment répondu qu'elle avait adoré la musique, mais c'était un petit peu proche de de l'univers qu'elle avait croisé un petit peu toute sa vie, et que avec le temps qui lui restait à faire de la musique, elle avait envie d'aventure qui l'emmenait complètement ailleurs. Donc on a réfléchi.
Oui.
Et à ce moment-là, je venais de terminer la lecture de Magellan, de Stefan Zweig. Donc j'ai proposé ça aux copains, parce que en leur disant que j'avais complètement flashé sur Tracy, qui me paraît surtout étonnamment contemporain dans ses enjeux. Et voilà, on trouvait que c'était peut-être une idée de passer par le texte et par le mot, par le verbe, pour l'emmener ailleurs dans notre...
Ah oui, c'est un objet discographique absolument passionnant. En plus, on parle beaucoup de Magellan. Il y a une exposition en ce moment au Musée de la Marine sur Magellan, et aussi sur les textes de Pigafetta, qui était l'écrivain qui était à bord. Et le texte de Stefan Zweig est absolument sublime. C'était la voix de qui, puisque ce n'était pas Norma Winston?
La voix qu'on entendait à l'instant?
Oui.
Dans l'album, c'est la voix de Lila Tamazit. Et donc la narratrice, Lila Tamazit, en fait, vous la connaissez quasiment tous, c'est la voix de chaîne d'Arte depuis plus de 10 ans.
D'accord. Alors, le label Yolk, il a été créé au départ à Tours, maintenant il est basé à Nantes, c'est ça? Tout le monde est à proximité, Alban, je sais qu'il est dans le coin, vous, Jean-Louis, vous êtes tous proches.
Oui, alors Jean-Louis a récemment migré des latitudes plus ensoleillées et du côté de,
quoi,
du Gers.
Il a quitté la Bretagne. Mais... c'est pas possible.
Ouais.
Quitter Nantes.
Quitter Nantes.
Mais ceci dit, c'est marrant parce que vous avez une parenté avec le Faucheux, en fait, hein, le petit Faucheux qui est à Tours.
Oui, c'est votre maison, le petit Faucheux.
J'avoue que c'est un peu une maison bis. Oui. C'est aussi, ça a été mon école de quasiment.
D'accord.
J'ai connu l'ancien petit Faucheux qui était vraiment un tout petit club et j'y ai fait mes armes. J'ai beaucoup, beaucoup joué là-bas. Et puis, abandonné en arrivant à Nantes. Donc j'y ai beaucoup moins, jusqu'au moment où j'y suis retourné comme artiste associé en 2012, et depuis, je ne profite plus de...
Alors, la communication n'est pas terrible, on n'a pas entendu votre dernière phrase. Vous êtes avec nous ?
Oui, je suis toujours là.
Okay. Sébastien, je propose qu'on écoute une autre nouveauté du catalogue de 2026, et le trio de David Chevalier, le guitariste, avec vous-même et avec Christophe Lavergne. Je vous propose qu'on écoute un morceau Funny Folks. Ça vous va ?
C'est parfait. Allons-y, ça va être joyeux.
Exactement. Thank you. Et oui, sur Jazzland, Aligre FM 93.1, pour parler de ce formidable label YOL qui, nous, à chaque fois, nous bluffe par la qualité de ses réalisations et la qualité musicale, d'une musique qui est très recherchée, mais surtout avec une vraie esthétique, une marque esthétique. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez? Il y a une volonté d'affirmer une esthétique particulière au sein de ce label?
Alors, une esthétique, non, je n'irai pas jusque-là, parce qu'on a une vraie volonté de pouvoir laisser une totale liberté de création aux artistes. Donc, on ne cherche pas absolument à orienter la prise de parole ou les compositions. On n'est pas du tout interventionniste, en fait, dans le processus créatif. Ce qui est sûr, au contraire, c'est qu'il n'y a rien qui sort sur le label qui n'a pas eu l'approbation de nous trois. Il faut vraiment qu'il y ait une unanimité. Et nous, ce qu'on cherche plutôt à soutenir, c'est des démarches de groupe, surtout. C'est des gens qui développent des sons de groupe, parce que c'est un petit peu la maison qui nous est la plus chère. Et puis c'est aussi parce qu'on sait à quel point c'est dans la durée que la plume des compositeurs s'affirme, et puis aussi que le collectif qui fonde le groupe de musique prend de l'épaisseur, en fait, et prend son son. Et c'est à ça qu'on reconnaît un groupe. Je pense que pour les auditeurs, c'est assez facile de comprendre que le quintet de Miles Davis ou le triplet de Keith Jarrett, ce sont des entités en soi qu'on arrive à identifier quasiment instantanément. Et c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de garder le cap avec le label.
Alors là, on venait d'entendre le trio de David Chevalier. Hein, donc on rappelle David Chevalier à la guitare, vous-même à la contrebasse et Christophe Lavergne à la batterie. David Chevalier et Christophe Lavergne, sont des produits locaux?
Alors, Christophe Lavergne, on pourrait dire que c'est un produit local, né en Vendée, jeune adulte à Nantes. Et puis, en ce qui concerne David Chevalier, c'est un produit local désormais, puisqu'il habite à Nantes depuis plus d'une dizaine d'années.
Quel est votre lien d'ailleurs avec le Panonica? Parce que je pense que vous êtes je vois leur logo sur pas mal de votre communication, de vos communications, pardon.
Le Panonica est un partenaire assez naturel, en fait. C'est vraiment la scène jazz à Nantes. On a de très bons rapports avec le Panonica, comme avec les Rendez-vous de l'Herbe. En fait, c'est des gens avec qui on travaille. Et notamment, à chaque fois qu'on sort un album, on a la possibilité de pouvoir organiser une soirée de sortie au Panonica. Donc, c'est vraiment des liens assez forts.
Alors justement, puisque merci Cécile de poser cette question, parce que vous étiez à Tours, maintenant vous êtes à Nantes, vous avez un ancrage très fort à Nantes, on vient de parler du Panonica, ce qui m'amène à poser une question, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise sur cette question, mais le soutien à la politique culturelle en général, pas que dans le jazz, mais sur la politique culturelle en général et du spectacle vivant à Nantes est un petit peu difficile en ce moment. Est-ce que vous sentez vous un changement dans le soutien que Nantes et la région vous apportent? Est-ce que vous êtes challengé?
Oui, bien sûr. Alors, Nantes et la région sont deux entités différentes. Là, on parle juste d'une ville qui apporte un soutien aux arts depuis assez longtemps et qui est reconnue pour ça et qui vraiment fait un énorme travail. Donc nous, on n'a pas aucun problème avec la ville de Nantes. Et heureusement, j'ai envie de dire que la ville de Nantes se comporte de cette manière, ce qui n'est pas du tout le cas avec la région des Pays de la Loire, qui elle a décidé de fabriquer 75% des budgets dédiés à la culture en 2025.
Oui, ça a fait pas mal parler il y a quelques mois.
Oui, alors ça a été un cataclysme, parce qu'en plus, ça fait malheureusement boule de neige, c'est-à-dire que d'autres régions ou départements se sont sentis des ailes à suivre cet exemple-là. Donc voilà, ils ont ouvert une boîte de Pandore et en plus ça a des effets catastrophiques sur l'emploi culturel, parce qu'évidemment ce sont des compagnies qui sont menacées, ce sont des artistes et des techniciens qui ne peuvent plus travailler, mais même au niveau des salles de diffusion, c'est des énormes difficultés, parce qu'il y a évidemment des charges incompressibles, et la seule variable d'ajustement elle est bien sûr souvent au niveau des budgets dédiés à l'artistique. Donc,
et concrètement, vous sentez déjà des changements
Non, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de collègues qui n'ont plus de concert. On a du mal à réaliser, mais je suis assez éberlué de constater autour de moi que des gens d'une qualité folle, des gens qui ont des parcours incroyables, se retrouvent avec quelques concerts pour l'année qui vient. C'est vraiment des catastrophes qui s'annoncent. Et je sais aussi que certaines salles songent à fusionner entre elles pour pouvoir absorber cet impact budgétaire.
Alors, on va parler du modèle économique, on va passer un autre titre. Pour parler aussi de revenir sur l'actualité du label, bon, pour rappeler aux auditrices et aux auditeurs qui peuvent trouver sur le site d'Aligre FM, en réécoute, l'émission que nous avions réalisée avec Mathieu Donarié, qui a signé un très bel album sur un label que vous connaissez, qui s'appelle Yolk.
qui veut dire jaune d'œuf, il paraît, non ? Yolk ?
Oui. Oui, alors l'explication de ce jaune d'œuf, c'est quel titre donner à ce label ? On a fait du brainstorming et puis je me suis souvenu que Alban était daltonien et que l'unique couleur qu'il voit comme nous, c'est le jaune. Donc on a cherché autour du jaune et on est tombé sur ce Yolk qui vient de Egg Yolk, le jaune d'œuf.
Oui, effectivement.
Qui est un très joli nom, Yolk.
Absolument, à ne pas confondre avec une boisson lactée. Je vous propose, Sébastien, qu'on écoute D'ailleurs, je vais dédier ce titre à ma fille, puisqu'elle porte le même prénom. On va écouter Louise d'Almanda, enfin de Dandy et Dandy, notamment Alban et Nathalie d'Arche.
Et Chloé Caïton.
Je vous propose qu'on écoute Louise.
Et Trois de la Misère.
Oui, on les citera.
Et je vous prends un peu. Thank you.
Bonsoir, c'est Alex Dutille dans Jazzland sur Aligre FM, tous les derniers samedis du mois, 17h-18h. C'est l'heure du plaisir du jazz.
Et oui, vous êtes bien sur Jazzland. Et puis la semaine prochaine, effectivement, comme il vient de vous le dire, le monsieur, vous aurez le plaisir de recevoir, nous avons le plaisir d'assister à l'émission d'Alex Dutille, le retour sur les antennes. On vous en dira plus en fin d'émission.
Là, dis juste un tout petit mot sur Dandy Dandy qu'on vient d'écouter, Jean-Marc, parce que je les avais vus sur scène et je note la voix particulièrement. Gracieuse de Chloé Caïton, qui fait partie du label depuis un petit moment, qui est sur Dandy Dandy. Et puis, il me semble, parce que moi, j'étais pas loin de Nantes au début des années 2000, il me semble qu'elle a été aussi à l'honneur dans un disque qui s'appelait Out of the Blue.
Complètement. Ça s'appelait Urban Setting. Tout à fait.
Voilà.
Elle est présente sur le label, c'était en 2003.
Ouais, elle était toute jeune et je pense que c'était juste avant qu'elle fasse le conservatoire. Donc moi je l'avais remarqué à l'époque. Et elle est d'ailleurs en ce moment sur un projet avec Cathy Escoffier Octet. Comme quoi la Bretagne et le Sud quelquefois s'allient pour faire des choses merveilleuses. Et arrangé par Christophe Del Sasso qui va sortir fin février, je crois.
Alors justement, Helios et Célène, je ne sais pas comment ça se prononce, Helios et Célène, du groupe Dandy et Dandy, donc c'est avec Alban Darche au saxophone ténor, Nathalie Darche au piano, Chloé Caïton dont on vient de parler à la voix, Geoffroy Tamizier à la trompette et Jean-Louis Pommier au trombone. Ils n'aiment pas les contrebassistes, il n'y a pas de contrebassiste sur cet album. Alors peut-être que Sébastien, on peut annoncer un concert d'ailleurs. T'as deux concerts, d'ailleurs, je me permets, donc ils seront en concert le 4 et 5 mars à Paris au Théâtre de l'Île Saint-Louis, et le 7 mars, ils reviennent au Bercail, puisque ce sera un concert à La Baule. D'ailleurs, est-ce que vous avez d'autres dates de concerts des musiciens du label à annoncer, Sébastien ?
Alors, toutes les dates sont normalement sur le site internet, mais il est peut-être pas tout à fait à jour. Je suis en train de vérifier. Je vous parle, effectivement, il n'est pas tout à fait à jour. Alors, il va falloir qu'on corrige ça.
Bon, écoutez, on invite les auditrices et auditeurs à aller sur le site pour repérer les dates. Alors, on parlait tout à l'heure de la politique culturelle de Nantes, mais ça nous amène à une autre question. Le modèle économique de Yolk, comment ça tient, comment ça marche? Comment vous êtes distribué? Comment vous tenez, en fait?
Eh bien, on tient... c'est une très très bonne question et ça illustre aussi... une des raisons pour laquelle l'agenda du site n'est pas forcément à jour tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, donc c'est encore aujourd'hui comme ça a été conçu au départ, c'est-à-dire que c'est plutôt une fédération d'autoproducteurs. Le point de départ de cette affaire, c'est qu'on avait des bandes, on avait enregistré des albums étant jeunes, que ce soit Alban, Jean-Louis ou moi, chacun de notre côté, et on a pris cette décision de se réunir pour être un peu plus forts tous les trois pour pouvoir sortir ces albums. On était déjà, juste avant les années 2000, dans un virage discographique, c'est-à-dire que les labels étaient un peu en perte de vitesse, les ventes de disques commençaient à se tasser, c'est-à-dire que les labels qu'on démarchait à cette époque-là nous répondaient qu'ils étaient très intéressés par la musique, que le projet artistique était très fort, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre de nouveaux artistes. C'est donc pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure au départ. Et on l'a conçu comme une sorte de fédération de producteurs où chaque artiste prenait en charge une partie du fonctionnement de cette fédération. On était vraiment dans un fonctionnement très collectif et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on accueille des artistes, soit des albums des fondateurs, soit parfois la famille proche, vous parliez de Mathieu Donnarier tout à l'heure, ou David Chevalier... cet automne, on va sortir un nouvel album avec Joseph Dumoulin, Eric Tillman, par exemple, en duo. Donc, c'est des artistes qui sont proches de nous, avec lesquels on a pas mal travaillé. Donc, ces gens-là savent qu'en venant chez Yolk, ils vont être producteurs, ils vont amener une part de leur financement. Souvent, c'est eux qui produisent leur bande. Et nous, on leur apporte ben, une espèce d'environnement, une vitrine déjà, le fait d'être ajouté au catalogue, et puis évidemment un accès à la distribution. Alors ici, c'était le cas à 100% parce qu'on travaille avec l'autre distribution depuis très longtemps.
Oui.
Quand on sort des albums physiquement, sous forme de CD, c'est l'autre distributeur qui distribue. Et puis parfois, il arrive qu'on fasse juste une sortie digitale parce que bah, les moyens ne sont pas suffisamment conséquents. Donc le digital aussi permet aujourd'hui une économie un tout petit peu plus souple pour des artistes autoproducteurs.
Mmh,
ouais.
Sûr.
Et en termes de fonctionnement même de Yoast, il est possible grâce, on en parle tout à l'heure, mais grâce au soutien de la ville de Nantes qui nous attribue une subvention qui nous permet de payer un mi-temps d'une administration qui coordonne, nous accueille. Et pour tout le reste, on est bénévole depuis le début.
Okay. Est-ce qu'on peut parler quelques secondes de la Yolk Academy?
Oui,
il me semble,
bien sûr.
Ouais, il me semble qu'il y a des petites choses à dire sur un programme de masterclass, c'est ça, pour des jeunes
ouais.
musiciens?
Oui, c'est ça. L'idée, c'était d'offrir la possibilité aux jeunes musiciens de venir se frotter à des plumes de compositeurs d'aujourd'hui. Donc là, notamment, il s'agit de la plume d'Alban Darche, qui est vraiment un compositeur, un arrangeur, un orchestrateur.
Oui, qui a écrit pour qui a créé l'Orphic Cube, hein, c'est ça?
L'Orphic Cube. Avant, le Gros Cube.
Le Gros Cube.
Donc, en fait, il y a décliné il y a eu le Cube, l'Orphic Cube, l'Hypercube, le Gros Cube. Et en tout cas, aime bien se jouer des formats, et on s'est souvent fait la réflexion qui est une des grandes différences entre l'entrée dans le monde de la musique pour les musiciens, en tout cas entre la différence entre l'approche anglo-saxonne et notamment américaine et l'approche européenne, elle se jouait souvent à l'endroit des big bands, c'est-à-dire que beaucoup des musiciens américains, quand ils débute le jazz, il passe par quasiment obligatoirement par la case big band. Et le big band, c'est un endroit où on apprend justement à cet équilibre entre l'individualité, l'expression individuelle, la prise de solo par exemple, et le jeu en pupitre. Et c'est une école qui est formidable parce que c'est une école qui permet cet équilibre entre savoir exprimer son ego et savoir aussi le calmer et le rentrer dans un jeu qui doit être unifié au sein d'un pupitre.
Mais oui, entre l'improvisation et l'écriture, et le respect d'une écriture, en fait.
Exactement. Mmh. Et nous, on adore ça. Et voilà, on s'est dit qu'en montant cette Yolk Academy, on a monté un orchestre qui s'appelle Myriad. Mmh. Et l'idée, c'est de pouvoir encadrer. Donc, on est cinq encadrants. Disons qu'on est des collègues un peu plus expérimentés. Et on s'adresse à des jeunes musiciens qui sont déjà bien formés, qui ont des capacités de lecture importantes et qui peuvent déchiffrer assez rapidement des musiques qui peuvent être parfois complexes, mais de les inviter dans notre univers, nous, de grande formation. Donc on joue beaucoup des musiques que Alban a composées soit à l'époque pour le Gros Cube, soit pour différentes formations, et on leur propose de les accompagner dans cette démarche-là, de les aider à appréhender, à le vocabulaire, la grammaire d'Alban Darche, et de pouvoir s'essayer à ce son de masque et le big band.
Alors, je vous propose qu'on écoute, parce que en fait, vous n'êtes pas sectaire, vous arrivez aussi d'accueillir même jusque des Lyonnais d'ailleurs. Des Lyonnais qui viennent enregistrer, enfin qui sortent leur album magnifique d'ailleurs sur le label Yolk. Je vous propose qu'on écoute un morceau de Louis Clavis du dernier album, India.
Allez.
Thank you.
Et oui, c'est un extrait de l'album India, paru sur le très beau label Yole, sur quintette de Louis Clavis, qu'on entend là à la clarinette basse.
Décidément, cette clarinette basse.
Voilà,
on a commencé avec, on finit avec.
Et on n'a pas complètement fini l'émission. Comment Louis Clavis est-il venu à Yolk?
Louis, il y est venu progressivement. Bon, déjà, c'est une connaissance personnelle. On a pas mal travaillé ensemble. Vraiment, ces 15 dernières années. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on s'était rencontrés effectivement aux côtés de Michel Portal et de Daniel Humer. Donc, on a eu quelques occasions de jouer. J'étais bien plus jeune à cette époque-là. Et puis, un jour, il m'a rappelé, Louis, en me proposant une autre aventure avec un comédien qui s'appelle Jean-Paul Delors, excusez-moi. Pas du tout le même type de comédie.
Non, Jacques Delors faisait autre chose.
Mais de la comédie quand même.
Ouais. Mais en tout cas, on a monté un spectacle qui s'appelle Langues et Lueurs. Et Louis s'est rapproché progressivement du label. Il a d'abord été invité avec François Tuillier, Jean-Louis Pommier et Didier Tursari. Et Christophe Laverne d'ailleurs. C'est un groupe qui s'appelait LP3. Oui. LPT3. Et ils avaient invité Louis, donc c'était sa première apparition sur le label. Et puis ensuite, on a enregistré ce répertoire dont je vous parlais avec Jean-Paul Delors. C'est une sorte de récital, de texte, d'auteur qui était en appel. Et Louis a composé la musique, moi je l'avais arrangé. Il avait fait sa deuxième apparition, et l'an passé, ou il y a un an et demi, il m'a contacté en me disant, voilà, écoute... je vais enregistrer mon prochain disque, le prochain quintet. Et je pensais que ce serait super de sortir sur Yolk, si vous êtes d'accord. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
Très belle initiative et aussi très bel album. Le temps passe vite, Sébastien. Il est temps malheureusement de se quitter. On va se quitter avec un dernier morceau. Vous connaissez le Brass Dance Orchestra.
Je rappelle juste, Jean-Marc, Yolk a eu une victoire du jazz en 2021.
Oui, absolument.
C'est un label qui compte.
Un label qui compte, absolument. Encore une fois, bravo Sébastien. Alors, on peut peut-être faire une petite pub pour vous-même. Sébastien, quand est-ce qu'on vous entend avec l'ONG? Le prochain concert de l'ONG, c'est quoi?
Je pense que le prochain, ça va être à Coutances. Le 16 mai, il me semble, de mémoire. Mais il me semble que c'est le 16 mai à... Coutances, à Jazz sous les Pommiers.
Il y sera.
À l'occasion de...
Le
14 mai, sur le programme Carla Bley, que nous avons eu la chance déjà d'entendre à Nevers.
Avec Sylvaine et Larry.
Avec Sylvaine et Larry.
Qui fait partie du label aussi, Yolk, qui était à l'origine...
Absolument, c'est vrai, la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée.
Merci beaucoup, Sébastien. Donc, on va se quitter avec un morceau des Bee Gees. On va se quitter avec Staying Alive. Mais on a commencé l'émission avec Bayador et on continue la danse avec le Brass Dance Orchestra. Staying Alive. Un grand merci, Sébastien, de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup, Cécile.
Merci, Jean-Marc.
La semaine prochaine, vous retrouverez Alex Dutille avec le thème L'or de la conversation. Il en discutera avec Naïssam Djalal. Et nous, on se retrouve
Ça
dans
promet.
15 jours. D'ici là. Portez-vous bien et faites bien attention à vous. Ciao tout le monde.
À bientôt Jean-Marc Gélin. Thank you.
Allegre FM 93.1.